Je me souviens qu'étant enfant, mes parents m'ont enseigné qu'il fallait parler respectueusement à tout le monde en toutes circonstances. Les insultes, les paroles désobligeantes sont comme les gros mots à éviter. Bon, d'accord. Cette règle de conduite semble sage et puis ça fait partie de la bonne éducation des gens bien. Mais en lisant les Écritures saintes, j'ai découvert à ma surprise qu'il y avait des exceptions à la règle. Quand l'honneur de Dieu est en jeu, ou lorsqu'il est question de vie ou de mort éternelle, il faut absolument une intervention énergique. Je continue à lire dans le chapitre 3 de l'épître de Paul aux Philippiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux mutilés. Verset 2. Paul ne fait pas dans la dentelle. On croirait entendre des coups de fouet. Il a des paroles très dures à l'égard de certains imposteurs juifs. Mais Jésus fut encore plus mordant que son apôtre lorsqu'il a maudit en long et en large les religieux de son époque. La vivacité soudaine du ton de Paul, sa brutalité, s'explique par sa crainte légitime de voir ses faux ouvriers détourner de Jésus-Christ l'église de Philippe, un des joyaux de sa couronne. Dans une autre épître, il dit de ces faux circoncis « Ah, qu'ils se mutilent donc complètement, ceux qui sèment le désordre parmi vous !» Ces mystificateurs étaient très dangereux. Un passage de l'Ancien Testament met les Israélites en garde contre les faux prophètes. Je le lis. « Les sentinelles d'Israël sont toutes aveugles, ce sont des ignorants, tous sont des chiens muets qui ne peuvent pas aboyer. » Allongés, rêvassants, ils aiment somnoler, mais ces chiens sont avides et jamais rassasiés, et ce sont des bergers qui ne comprennent rien. Ils suivent chacun leur chemin à la poursuite de leurs gains. Fin de citation. Ces faux prophètes sont comparés à des chiens muets et à de mauvais bergers. L'analogie est bonne. En effet, un bon chien berger est constamment sur le qui-vive et si un loup ou un autre animal menaçant s'approche du troupeau, il va aboyer à plein poumon, faire un ramdam à tout casser pour avertir son maître et montrer ses dents, prêt à se battre. Le bon berger va alors accourir avec son bâton ou de nos jours avec un fusil. Mais les fauchetons du passage cité tentaient de réconforter le peuple du royaume de Juda alors qu'il était sur le point d'être envahi par les Babyloniens. Il leur disait que tout allait bien, que Dieu allait les délivrer, au lieu de les avertir du danger immédiat. Le royaume d'Israël Nord avait déjà été emmené en captivité un bon siècle plus tôt, parce qu'ils avaient écouté leurs faux prophètes qui racontaient des boniments par intérêt financier. La même chose se répétait dans le royaume du Sud. Mais peut-être direz-vous que ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Eh bien si. En effet, les membres du clergé, quelle que soit leur appartenance ecclésiastique, ont parfois la mauvaise tendance à caresser les oreilles de leurs paroissiens, à dire ce que les bonnes gens souhaitent entendre. Ça saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, lors des cérémonies funèbres. C'est fou ce que les défunts étaient des gens bien. Décidément, ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. J'ai entendu des prédicateurs qui faisaient l'éloge d'un défunt alors qu'il ne l'avait jamais connu. Ces discours creux atténuent peut-être la douleur de la famille du disparu, mais évitent toute confrontation avec la réalité du Dieu créateur à qui chacun de nous devra rendre des comptes. Un passage du Nouveau Testament dit « Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé. » Si vous avez des examens médicaux et que les résultats ne sont pas bons, voulez-vous connaître la vérité ou qu'on vous raconte des bobards? Les mensonges dispensés par les faux ouvriers religieux ne sont pas inoffensifs, mais un poison mortel. C'est ce qui explique pourquoi Paul est si violent dans ses propos. La force de son attaque vient du ton, du vocabulaire employé et du fait qu'elle est triple, se composant de trois courtes locutions parallèles qui commencent toutes par « prenez garde ». Le mot « chien » était un terme de mépris en Orient. et traiter quelqu'un de chien était une grave insulte, parce que ces animaux n'étaient rien d'autre que des charognards, vicieux et dangereux, des bêtes malfaisantes et errantes qui hantaient les villes antiques. Toujours en quête de quelques pâtures, ils attaquaient parfois même les hommes, surtout les enfants. Dans la loi juive, le chien était considéré comme un animal impur, et les juifs réservaient cette appellation injurieuse aux païens. Ici, son emploi par Paul choque doublement, car d'une part, c'est un mot violent, et d'autre part, l'apôtre ne vise pas des païens, mais des juifs. Il attaque les judaïsants, partisans de la circoncision, qui voulaient à tout prix imposer aux chrétiens d'origine païenne la pratique de la loi juive. En ajoutant les rites de l'ancienne alliance à la foi en Jésus-Christ, ces mécréants distillaient un venin mortel et créaient une confusion monstre dans les églises. Si Paul les appelle « faux circoncis », c'est parce qu'ils possédaient bien les marques de ce rituel dans leur chair, mais demeuraient incirconcis de cœur. Ils mutilaient la bonne nouvelle en insistant sur la nécessité de mutiler la chair pour être acceptés de Dieu. Ce qui les rendait particulièrement malfaisants est qu'ils ne s'opposaient pas à la foi en Jésus, mais y ajoutaient un élément étranger qui transformait tout leur message en un poison fatal pour l'éternité. Ils proclamaient haut et fort que la circoncision, telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament, était aussi nécessaire que la foi pour l'obtention du salut. Qu'ils aient eu de bonnes ou de mauvaises intentions ne changeait rien au fait qu'ils étaient des artisans du mal, surtout qu'en plus, ils ne cessaient d'harceler Paul et ceux qui s'étaient convertis sous son ministère. Je continue le texte. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Verset 3. La circoncision de la chair décrite dans l'Ancien Testament établissait l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu, mais en partie seulement. Preuve en est que Paul parle des faux circoncis. En effet, ce rite avait été institué pour aller de pair avec la circoncision du cœur, c'est-à-dire un esprit de repentance et de soumission à Dieu qui conduit à la nouvelle naissance. Sur le rite de la circoncision, Paul écrit ailleurs. Peu importe d'être circoncis ou non. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Fin de citation. Voilà donc l'explication à l'affirmation paradoxale de l'apôtre lorsqu'il écrit que lui et ses lecteurs, qui étaient d'origine païenne, sont les véritables circoncis. Et c'est ce que prévoyait la loi de Moïse. Le vrai croyant se distingue de trois manières différentes. Il honore Dieu en lui rendant un culte en esprit et non avec des rites. Il chérit Jésus-Christ et trouve en lui sa raison d'être. Et troisièmement, il ne place aucune confiance dans ce que l'homme, même religieux ou moral, peut faire de bien. Une quatrième particularité que l'apôtre a déjà mentionnée est qu'il se réjouit dans le Seigneur. Et on pourrait en ajouter une cinquième, implicite celle-là. Il est capable de discerner entre les faux ouvriers et les vrais, entre la vérité et l'erreur. Dans la vie quotidienne, la plus importante de ces cinq caractéristiques du croyant est qu'il ne se fie pas à ce qu'il est capable de faire. Dans une autre épître, Paul écrit « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Or, ceux qui vivent selon leur penchant naturel ne sauraient plaire à Dieu. » Fin de citation. Les judaïsants légalistes suivaient Paul à la trace et lui emboîtaient même le pas. Dès que l'apôtre avait quitté une église, il se rappliquait sous des faux semblants et commençait à enseigner. Il disait quelque chose comme « Bien sûr que le frère Paul dit que nous ne devons pas placer notre confiance dans les accomplissements humains, les rituels et l'observation de la loi et que la foi seule sauve, parce que dans sa vie, il n'a pas été capable d'obéir à tous les préceptes de Moïse. Alors ce n'est pas étonnant qu'il les ait rejetés. Mais vous n'êtes pas comme lui et vous devez adhérer à toute la loi. Et pour commencer, faites-vous circoncire, sinon vous ne pouvez être sauvé. C'est à ce genre d'accusation que Paul répond. Je continue le texte. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Verset 4. En tant qu'apôtre, Paul n'accordait aucun crédit à ce qu'il pouvait bien accomplir. Pire encore, il se méfiait de lui-même comme de la peste, ayant expérimenté les paroles du prophète de l'Ancien Testament qui a dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». L'apôtre va maintenant donner ses références, présenter ses lettres de créance, pour ainsi dire, afin de bien montrer que ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ sont les vrais circoncis de Dieu. Paul connaît les arguments des judaïseurs et veut les débouter. Ces faux jetons peuvent effectivement dire aux chrétiens d'origine païenne qu'ils ne comprennent pas le riche héritage du judaïsme, mais ils n'oseraient jamais dire cela de l'apôtre Paul, dont le curriculum vitae juif était impeccable, sans la moindre rature. En fait, Paul avait même une longueur d'avance sur tous ses compatriotes. Dans une autre épître, il écrit « Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des juifs de ma génération et j'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. » Fin de citation. Si quelqu'un a été juif jusqu'au bout des ongles, c'est Paul. Et si quelqu'un aurait pu gagner le paradis par ses propres efforts, c'est encore Paul. Je continue le texte. « J'ai été circoncis le huitième jour, je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. » Verset 5. Le témoignage de Paul a deux parties. Il va d'abord dresser une liste de 7 spécificités typiquement juives que jadis il imaginait être à son crédit. 4 lui furent octroyés de naissance et 3 il avait acquis de lui-même. Il croyait alors que ses avantages spirituels lui mériteraient la vie éternelle, alors qu'en réalité, ces choses le conduisaient droit au jugement parce qu'il se confiait en elles. Paul commence par la circoncision parce qu'elle intéressait les judaïsants au plus haut point. En spécifiant le 8e jour, il montre qu'il est un juif pure race de parents pieux qui ont rigoureusement respecté les exigences de la loi de Moïse. Jésus aussi a été emmené au temple le 8e jour pour être circoncis. En second lieu, Paul dit qu'il est israélite de naissance, un vrai de vrai, de souche, comme ses parents. Il insiste lourdement sur son patrimoine juif pour bien souligner ses qualifications. Troisièmement, il est de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire que contrairement à la majorité des Israélites qui avaient perdu leur identité tribale, la famille de Paul pouvait remonter jusqu'à l'ancêtre fondateur. En fait, je suis sûr qu'on aurait pu vérifier au temple de Jérusalem que sa lignée allait jusqu'à Abraham. Benjamin, qui veut dire « fils de ma main droite », avait pour mère Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob. C'était son 12e fils, son préféré, et celui sur lequel Jacob s'est appuyé dans sa vieillesse. De plus, la tribu de Benjamin était tenue en haute estime par les Juifs, car contrairement aux autres, elle était restée fidèle à la dynastie de David. Saül, premier roi d'Israël, était de cette tribu. En quatrième lieu, Paul dit qu'il est hébreu, né d'hébreu. Sa famille avait maintenu l'usage de la langue hébraïque et les coutumes traditionnelles juives. Elle n'avait pas embrassé la culture gréco-romaine et donc n'était pas tombée dans le paganisme. Paul lui-même avait étudié à Jérusalem et avait eu pour maître le célèbre rabbin Gamaliel. Cinquièmement, Paul était pharisien, une secte fondamentaliste, mais dont les adeptes croyaient à l'inspiration divine de l'Ancien Testament, l'existence des anges, à la résurrection des justes et aux miracles. Ils étaient aussi très nationalistes, cherchant à établir le royaume de Dieu sur terre par la manipulation politique. comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Selon l'historien juif Joseph, au 1er siècle, les pharisiens étaient environ 6000, mais représentaient le gratin religieux d'Israël, une élite influente et très respectée. Cependant, leur interprétation et observation de la loi de Moïse consistait à couper les cheveux en quatre à longueur de journée. Et ils y ajoutaient allègrement leurs propres règles qui finirent par être acceptées comme parole de Dieu. Jésus leur reprocha d'avoir substitué leur tradition à la loi de Moïse. Paul était très attaché à sa tradition religieuse et sa dévotion au judaïsme était sans pareil. Il pouvait dire sans sourciller « Je suis pharisien, fils de pharisien. J'ai vécu en pharisien selon le parti le plus strict de notre religion. » Fin de citation. Je continue le texte. « Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche, » dit Paul. Verset 6. En sixième lieu, l'apôtre était le meilleur adepte de la religion juive, car en son nom, il persécutait implacablement l'Église de Jésus-Christ. Alors que les autres pharisiens étaient satisfaits d'avoir chassé les chrétiens de Jérusalem, lui, il les poursuivait avec acharnement où qu'ils se trouvent. C'était dans ce but qu'il se rendait à Damas quand le Christ ressuscité lui a barré la route. Aucun judaïsant légaliste ne pouvait égaler son zèle. Paul était sincère, mais complètement dans l'erreur. Le monde est plein de gens comme lui, sincères dans leurs croyances. Ils produiront tous les efforts, payeront le prix fort et sacrifieront tout ce qu'ils ont pour essayer de plaire à Dieu. Il y en a toutes sortes, juifs orthodoxes, catholiques convaincus, protestants dévoués, musulmans pieux, bouddhistes ascètes, hindous fervents et bien d'autres. Ils prient, ils jeûnent, vivent dans la pauvreté et cherchent à faire le bien autour d'eux. Mais le zèle religieux ne garantit rien et n'ouvre pas les portes du ciel. Septièmement, Paul était irréprochable, blanc comme neige vis-à-vis de la loi de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il se considérait sans péché. D'ailleurs, dans une de ses lettres, il déclare « S'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Il est intéressant que, pour illustrer son péché, Paul ait choisi le dernier des 10 commandements. En effet, si j'enfreins celui qui dit « tu ne voleras pas ou tu ne commettras pas de meurtre », je risque fort de laisser des traces, des empreintes derrière moi. Et puis il y a l'arme du crime, le pied de biche qui a servi à fracturer la porte, le couteau planté dans le dos de la victime. Pareillement, il est impossible de commettre un adultère sans qu'au moins une autre personne le sache. On peut être certain que Paul n'avait commis aucune de ces fautes grossières. S'il a mentionné la convoitise, c'est parce que c'est relativement facile à cacher. Et s'il n'avait rien dit, c'était du ni vu ni connu. Personne n'aurait jamais su qu'il se soit rendu coupable de cette faute et il aurait pu passer aux yeux des autres comme ayant atteint la perfection. Mais il est devenu humble et avoue que la loi de Dieu a mis le doigt sur sa plaie et a révélé sa convoitise et ses autres péchés. Et c'est ainsi que la loi l'a condamné à mort, selon ses propres paroles. Quand Paul affirme qu'il est irréprochable, il veut dire que par sa naissance, par sa vie impeccable, par son respect des préceptes de Moïse et de la tradition des anciens, il était parfaitement en règle vis-à-vis des exigences de la loi. Pour tous ceux qui le connaissaient, c'était un juif modèle. Au regard de la mise en pratique de l'aspect légaliste de la loi, Paul était un super saint. Il avait parfaitement le droit de dire « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage ». Tous les crédits que Paul avait accumulés par sa naissance et par la force de son caractère constituaient son apport auprès de Dieu. le pactage qu'il était prêt à déposer aux portes du paradis et qui allait lui garantir une entrée triomphale. Il était confiant, sûr de lui et certain d'être dans la volonté de Dieu quand il se rendait à Damas dans le but de persécuter les chrétiens. Paul était sincère, mais totalement aveugle sur sa véritable condition spirituelle. Par pure grâce, Jésus s'est dressé sur sa route pour lui dire qu'il avait bâti sa vie sur du sable et qu'il avait tout faux. Devant le phénomène, Paul, une question s'impose. Où en suis-je? Où en êtes-vous avec la religion?